Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois au micro de Chrétien d'Orient, je reçois avec un immense plaisir Salam Kawakibi, avec qui nous allons évoquer la Syrie et surtout sa ville natale qui est Alep. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Alep et porteur d'une certaine mémoire de cette ville, cité comme nous le savons qui a beaucoup souffert. Il ne s'agit pas tant ce matin de parler politique, bien que vous êtes porteur d'une initiative de réforme arabe, continuant ainsi d'une certaine manière le travail de votre grand-père, réformiste lui-même, qui publiait en 1902 un texte important intitulé « Du despotisme » et republié récemment par les éditions Actes Sud. Je crois d'ailleurs que vous avez écrit une préface pour présenter le travail de votre grand-père. Mais nous allons plutôt nous plonger à l'exemple de ce qu'a été Alep pour le savoir-vivre entre les communautés et les religions. Bonjour Salam, soyez le bienvenu. Nous reviendrons sur votre histoire familiale, sur ce grand-père bien entendu, mais avant je voulais vous poser une question toute simple qui permette d'exposer notre sujet à nos auditeurs, c'est au fond qu'est-ce qui fait la singularité d'Alep ?
La singularité d'Alep, c'est le vivre ensemble qui remonte à des siècles et des siècles, et il n'est pas l'œuvre d'un système ou d'un régime, plutôt c'est un travail entre communautés, un travail entre dignitaires, un travail entre humains, qui est passé par l'éducation, par les relations commerciales, par l'architecture, et aussi c'est traduit d'une manière presque exemplaire sur l'espace public.
Une ville plusieurs fois millénaire, faut-il le rappeler, qui plonge ses racines loin dans l'histoire du Proche-Orient ?
Ça me rappelle une fois, je traversais la vieille ville avec un ambassadeur d'un pays nouvel et je lui ai parlé de cette axe routière comme étant datée de 2000 ans. Il m'a dit, vous voulez dire 200 ans ? Je lui ai dit, non, on parle de milliers d'années ici, les centaines d'années c'est chez vous. Et effectivement, à Alep, quand on remonte la citadelle, on voit bien que jusqu'à maintenant, avant la démolition voulue, bien avant les derniers événements par les différents gouverneurs, on remonte à 7000 ans sur le site de la citadelle déjà. Comme ça, on parle d'une ville qui est en concurrence éternelle avec Damas sur la plus vieille ville du monde. Et bien entendu, on parle aussi de Jéricho, et chaque ville prétend être la plus vieille et montre cela par les écrits, par les documents, mais l'essentiel c'est que ça remonte à au moins 7000 ans d'histoire.
Une ville qui s'inscrit aussi dans une géographie singulière, particulière, sur ce qu'on appelait peut-être les routes de la soie, les routes de ces caravanes qui portaient les marchandises depuis l'Extrême-Orient et qui arrivaient en Méditerranée. Alep était sur cet itinéraire, non ?
Tout à fait. Elle a continué à jouer ce rôle jusqu'à le début de l'utilisation du canal de Suez. Avant, tout le commerce oriental passait par Alep. Et ce qui apporte avec lui, pas seulement la marchandise, les humains, les cultures, les langues, et aussi ce qui caractérise Alep dans toutes ses communautés, c'est la cuisine, très enrichie par les apports chinois, iraniens, arméniens, turcs, arabes bien entendu, et aussi européens. Il faut savoir que le premier partenariat euro-méditerranéen, il a été signé entre la principauté d'Alep au XIIIe siècle et la République de Venise. Et comme ça, on a des plats vénitiens à Alep qui remontent au 14e, 15e siècle, qui sont devenus partie intégrale du patrimoine de la ville. Et quand on parle de plats, on parle pas seulement de dégustation, on parle aussi de ce qui tourne autour, les gens qui se trouvaient autour de ces plats, les échanges intellectuels qui existaient, et aussi la différenciation entre les différentes communautés par rapport à leur relation avec la cuisine. C'est pas par discrimination qu'on dit à Alep, par exemple, ce plat est spécifique au syriaque, celui-ci est orthodoxe. Et c'est par richesse et parmi, c'est beaucoup de musulmans ou d'autres communautés cuisinent les plats des autres en soulignant explicitement que ce plat c'est le plat du jeûne des chrétiens. Même si c'est cuisiné dans une famille musulmane, ainsi de suite.
Une ville, vous l'évoquez vous-même, avec plusieurs visages religieux, des communautés qui se rencontrent, qui échangent beaucoup avec parfois des quartiers qui leur sont propres, mais parfois aussi des quartiers mélangés. Est-ce que c'est un aspect marquant d'Alep pour vous ?
C'est bien entendu, il y avait des quartiers plus ou moins... avec des caractéristiques spécifiques. Bien entendu, il y avait la communauté juive, qui était une communauté assez importante, pas au niveau du nombre, mais au niveau de l'impact économique et l'activité et la culture. Et parmi les anecdotes très significatives, c'est que dans le quartier judéo-islamique de Jamiliyeh, c'est dans la nouvelle vieille Alep, ça date du fin 19e siècle, ce quartier, les musulmans montaient dans les appartements de leurs voisins juifs le samedi pour allumer, pour mettre le feu, pour préparer à manger. Et ils se partageaient ces rituels. Les musulmans savaient que le samedi, il y avait certaines restrictions pour leurs voisins juifs.
Le jour de Shabbat.
Alors, ils se partageaient les tâches. On sait très bien que parmi nos parents, il y avait beaucoup qui ont suivi leurs études dans les écoles avec des enseignants juifs ou chrétiens. Et les juifs et les chrétiens aussi, ils ont eu des enseignants musulmans ou autres. Et c'est par ces biais-là que les relations étaient relativement exemplaires.
Une altérité qui s'inscrit dans une forme de respect naturel pour ces autres communautés auxquelles que l'on respecte par une forme d'ancienneté, une forme d'appartenance à la même langue, à la même culture au fond.
Je crois que le radicalisme religieux, que ce soit chez les chrétiens ou les juifs ou les musulmans, n'existait pas vraiment dans cette atmosphère. Malgré la volonté des forces internationales qui essayaient de prétendre protéger une ou d'autres communautés. Et il y avait plusieurs tentatives de susciter le conflit. On se rappelle très bien les événements de Damas 1860 qui ont commencé déjà dans le mont Liban. Et on sait en lisant l'histoire que c'était pas seulement... Ça s'est traduisé par des conflits ou des confrontations à base religieuse, mais à l'origine, c'était un conflit franco-britannique sur la domination des différentes communautés qu'ils essayaient de manipuler. Et là, je souligne un texte de mon aïeul, Kawakibi, où il s'adressait aux chrétiens dans son livre du despotisme, en les désignant comme les premiers éclairés. Il le dit explicitement. Vous êtes les premiers éclairés, vous êtes les plus anciens. C'était un religieux musulman, lui. Évitez la manipulation des forces externes qui essayent de nous séparer, il appelle à vivre ensemble pour la patrie et que les religions gouvernent au-delà. C'était un religieux, c'était le premier religieux musulman qui appelait à la séparation entre la religion et l'État. Et surtout, il appelait à que l'État ne met pas la main sur la religion, ce qui est notre cas au XXIe siècle. C'est pas seulement que la religion doit se détacher de la politique, mais aussi les institutions politiques doivent laisser tranquilles les institutions religieuses.
Un texte qui me semble être d'une certaine actualité.
Tout à fait.
1902, l'Empire ottoman, votre grand-père écrit ce texte. Comment est-il accueilli à l'époque ?
Il a été très mal accueilli, surtout que ce texte, jusqu'à nos jours, il est reproduit et il est relu comme s'il a été écrit aujourd'hui même. Il a été mal accueilli par l'Empire, pas seulement par l'Empire, aussi par les institutions religieuses officielles. Que Kawakibi appelait les analyser la relation entre le despotisme et le religieux et comment il y a une exploitation échangée entre les deux catégories quand ils s'éloignent du service du public quand ils sont politiciens et quand ils s'éloignent du service de la foi et des éthiques quand ils sont religieux. Ils deviennent des gens qui cherchent le pouvoir et c'est son analyse se base là-dessus. Il a payé de sa vie finalement. Il a été empoisonné au Caire à l'âge de 44 ans en 1902, juste après la sortie du livre. Et il a dit à son compagnon au café où il avait été empoisonné, quand il a senti les douleurs, il a dit « ça y est, on m'a eu ».
Nous sommes ce matin avec Salam Kawakibi, nous évoquons la ville d'Alep et nous partons un petit peu pour un voyage musical. Nous sommes avec Salam Kawakibi ce matin, nous évoquons la ville d'Alep, ses souvenirs et une certaine tradition familiale parce que j'ai l'impression que votre famille Salam Kawakibi est ancrée à Alep depuis un certain temps.
Six siècles. Avec le nom de la famille depuis six siècles et ça vient des astres Al-Kawakib. C'est les scientifiques qui étudiaient le temps et les astres. Et la famille s'appelait Al-Mu'aqqat Al-Kawakibi. Et ça a été séparé entre Al-Mu'aqqat, celui qui précise le temps, et Al-Kawakibi, c'est l'astrologue qui étudie l'espace et les astres. C'est une famille de sciences. Elle a créé l'école Kawakibite à Alep, qui existe toujours dans la vieille ville détruite actuellement. Et il y a eu aussi la mosquée Al-Kawakibi qui a été érigée par le fils de Saladin pour rendre hommage au fondateur de la famille dans la ville d'Alep, qui est aussi détruite actuellement. Kawakibi lui-même, il a étudié beaucoup de langues, mais ce qui lui manquait surtout, ce sont les langues latines. Et il était conscient de cela. Pour ça, il a connu la philosophie des Lumières par les traductions turques. Il souligne à plusieurs reprises dans ses ouvrages les travaux de Montesquieu, de Alfieri et Kempt. Il a été aussi, il a fréquenté les familles italiennes qui vivaient à Alep, les commerçants italiens. Par leur biais, il a commencé à connaître la musique classique et il avait écrit des textes pour décrire sa première rencontre avec la musique classique. Une ville comme Alep, très riche au niveau musical, elle a été aussi ouverte aux autres musiques, pas seulement la musique orientale ou à base religieuse, mais aussi à la musique occidentale et notamment la musique classique.
Lui, le religieux musulman qui disait aux chrétiens, comme vous le rappeliez tout à l'heure, vous êtes les éclairés, héritier d'une longue tradition proprement alépine, ce qui veut dire qu'Alep était aussi un berceau intellectuel, un lieu de débat, un lieu de rencontre.
Il y avait. Il faut souligner que la première imprimerie a été apportée par les maronites à Alep dans le XVIIe siècle. Kawakibi, même, il était le premier à publier des journaux privés, parce que la presse était plutôt liée à la presse officielle de l'Empire, est très limitée dans la distribution. Il a commencé à imprimer un journal qui s'appelle La Modération, Al-Atidal, et un autre journal qui s'appelle Al-Shahba, c'est le surnom d'Alep, ça veut dire, parce qu'on dit Halab al-Shahba, Alep la Rousse. La Rousse, c'est son nom de deuxième journal. Et il imprimait ces journaux à l'imprimerie maronite d'Alep, parce que c'était le début de l'impression. Et il faut savoir qu'à la fin de l'Empire, il y avait une haine de la part du pouvoir central à tout ce qui est science, savoir. Et c'est là où Kawakibi, il a consacré un chapitre dans son livre à la relation entre le despote et les sciences humaines. Il a dit, le despote, il craint surtout les sciences humaines, il n'a pas peur des mathématiques, il n'a pas peur de la physique, de la chimie, il a surtout peur de la pensée, l'histoire de la pensée, la philosophie et autres sciences politiques. Il a dit, al-ulum siyasiya, les sciences politiques, à l'époque, il les a nommées comme ça, parce que ces sciences humaines ouvrent les esprits, apprennent aux gens quels sont leurs droits et comment les acquérir et les conserver. C'est bien avant, 48 ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Une rencontre des religions qui se manifeste aussi dans l'architecture. Je me souviens d'un caravansérail dans la proximité de la citadelle où en passant on voyait qu'il y avait une croix sur des fenêtres, je crois, un croix et une croissant. C'était les marchands, je crois, qui priaient ensemble.
C'était les marchands pour ne pas s'éloigner trop de leur boutique. Ils avaient transformé une salle à l'étage en salle de prière. Alors, on voyait bien, on pouvait très bien distinguer l'espace consacré aux musulmans et l'espace consacré aux chrétiens par la bretelle de pierre taillée sur les fenêtres. D'un côté, on voit la croix et de l'autre côté, on voit croissant. Cela a été aussi une chose très fréquente et il faut aussi souligner un fait historique quand la France voulait offrir le sanjak d'Alexandrette à la Turquie, il y avait un vote qui avait été organisé et pour falsifier le vote, les autorités mandataires avaient fermé les mosquées pour empêcher les habitants de se réunir le vendredi et d'aller ensemble voter.
Pour voter contre la cession à la Turquie.
La cession à la Turquie. Et c'est les églises qui ont décidé d'ouvrir leurs portes pour les musulmans faire leur prière de vendredi au sein des églises pour qu'ils puissent se réunir et aller voter ensemble avec les chrétiens. C'est un fait historique qui est documenté, qui montre très bien que malgré toutes les tentatives d'influencer telle ou telle communauté par des forces externes, cela n'a pas marché sur l'appartenance nationale de toutes les composantes de ce pays.
La forme la plus aboutie de ce que l'on appelle la tolérance.
Tout à fait, c'est la tolérance et le vivre ensemble qui malheureusement a été, par le despotisme moderne, a été presque anéanti.
Parlons musique maintenant. Nous étions avec Mounir Bachir tout à l'heure, qui est irakien. Nous avons connu ensemble Julien Jalaleddin Weiss, qui était ce grand musicien français installé dans la vieille ville d'Alep. Et vous me disiez que la musique compte beaucoup pour rapprocher aussi les traditions religieuses.
Dès le début de mon travail à l'Institut français d'Alep, j'ai organisé une conférence sur la musique religieuse, et c'était remarquable d'avoir la participation de prêtres jésuites, de prêtres syriaques et de religieux musulmans ensemble pour partager les mélodies et pour dire d'où vient cette chanson traditionnelle. Ça vient des manuscrits syriaques anciens, et il y avait le regretté père Émile Aswad qui avait transcrit toute la musique syriaque ancienne en notes, parce qu'elle a été transférée par la voix vocale, et il a écrit ça en notes. Les salons de musique à Alep, ça regroupait les chrétiens et les musulmans. Les chants soufis, vous allez dans une zaouïa soufi, vous allez tomber sur vos voisins chrétiens qui assistaient à la présentation, et ils étaient aussi ému que le musulman par le chant qui est à la gloire ou à l'amour du prophète. Et il faut aussi savoir une chose, ce qui adoucit les comportements religieux de toutes les communautés, c'est que les chants religieux se sont transformés au fur et à mesure, au cours des années, en chants d'amour. Alors l'amour du prophète s'est transformé en amour du partenaire, de l'autre. Et ça, on le voit dans toutes les chansons du Sabrim Dallal, de Sabah Fakhri, que Julien accompagnait avec sa musique magnifique. Et même chez Julien, vous vous souvenez, on trouvait des chers soufis qui chantaient à côté de lui, et des dames qui dansaient dans la cour avec des religieux musulmans et chrétiens qui partageaient la même musique et qui étaient émerveillés et qui étaient dans presque, j'allais dire, l'extase de cette musique commune.
Merci Salam Kawakibi d'être venu jusqu'à nous ce matin. Julien Weiss, dont nous parlions tout à l'heure, je rappelle pour nos auditeurs, et cette musique d'introduction à l'émission Chrétien d'Orient. Je remercie Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Philippe Bredin pour la réalisation de cette émission. Et en ce jour de 31 décembre, toute l'équipe de Chrétien d'Orient se joint à moi pour vous souhaiter de très très bons vœux de fin d'année. Nous retrouvons le service protestant. Merci.